Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Marc chapitre 8, les versets 22 à 38. J'ai intitulé le message ce matin « Le prix à payer pour suivre Christ ». Le prix à payer pour suivre Christ, j'ai besoin d'un tout petit peu plus de retour. Et j'aimerais lire juste les versets 34 à 38. Maintenant et ensuite, on va attaquer tout le texte, juste pour nous mettre dans le bain. Je vous lis la conclusion. Marc 8, 34. « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait-il à un homme d'échange pour son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Il y a environ 13 années de cela, on m'a contacté pour me demander si je voulais devenir l'aumônier du Genève Servette Hockey Club. La plupart de vous, vous connaissez cette histoire. Donc ça fait 12 ans que je suis actuellement l'aumônier du Genève Servette Hockey Club et je me rappelle quand ils m'ont finalement dit « John, viens, rencontre les joueurs », j'avais 4 minutes pour leur expliquer ce que j'allais faire. Ils n'avaient jamais eu un pasteur dans leur monde et moi j'avais jamais mis le pied dans leur monde. Et je me suis dit « qu'est-ce que je vais bien leur dire ?» Et j'aurais montré un verset. J'ai commencé qu'un verset. J'aurais dit, écoutez, j'aimerais vous expliquer pourquoi je suis là et ce que j'aimerais faire avec ce club en tant que l'aumônier officiel. J'ai ouvert ma Bible à Marc 8 et le verset 36, et j'ai lu ceci. « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Et j'aurais dit, vous savez, vous avez gagné le monde. Vous êtes connus, probablement certains de vous riches, vous avez tout quoi. Mais la question, est-ce que vous avez perdu votre âme? Si vous avez des questions par rapport à votre âme, moi je suis là pour vous aider à gagner votre âme. Par la grâce de Dieu, j'y suis encore, d'accord, dans ce club de hockey, parce que je ne savais pas si ça allait être mes dernières 4 minutes dans le club, je ne savais pas du tout, mais ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on attaque ce texte. Il est vraiment important. Il est radical, il est noir et blanc. On va voir premièrement l'importance de bien comprendre qui est Jésus-Christ. On va voir l'enjeu sur l'âme de le suivre ou pas. Et on va voir aussi quel prix payer si on veut vraiment le suivre. Alors pour nous aider dans le texte, on va reculer à partir du verset 22. Et j'ai, comme vous le connaissez, j'ai quelques points pour nous guider dans la compréhension de ce texte. Alors, numéro 1, c'est tout simple, la guérison. Tout commence avec un miracle. On va juste le lire et pas le commenter. Ça fait des semaines, voire des mois, qu'on étudie et qu'on regarde en détail des miracles et des guérisons que Jésus a fait. C'est en fait ici la dernière guérison d'une grande série qu'il a fait. Regardez, je vais simplement lire à partir du verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et a dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village. » Donc ici, Jésus guérit un homme aveugle. C'est le dernier miracle d'une série, comme j'ai dit, et le but de ce miracle, comme tous les autres, c'était de prouver sa divinité, prouver qu'il était vraiment Dieu. Si Jésus est de Dieu, il va faire des choses que seul Dieu peut faire, donc des miracles et des guérisons. Il veut prouver sa divinité et comme quoi il est le Messie promis d'Israël. Alors c'est intéressant, c'est le seul miracle, dans tous les miracles qu'il fait, que nous savons, où il l'a fait en deux temps. En deux temps. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait celui-ci en deux temps? Réponse, on n'en sait rien. On ne sait pas. Personne ne sait. Il y a beaucoup de théories, mais personne en fait le sait. Alors je veux juste faire une petite parenthèse, parce que c'est ici qu'il faut le dire. Vous savez que dans le monde chrétien, il y a des milieux où il y a des soi-disant beaucoup de guérisons qui se font. Et certains de ces soi-disant guérisseurs chrétiens utilisent ce miracle pour justifier la non-guérison instantanée et totale des sujets qu'ils guérissent de manière soi-disant. Et leur disent de rentrer chez eux et que Dieu, dans le temps, va leur donner une pleine guérison comme cet homme. Que ce soit dans une semaine, dans des mois ou dans des années. Et moi je trouve, je voulais juste souligner ceci, je ne trouve pas que c'est très honnête de dire ça, parce que cet homme certes fut guéri en deux temps, mais avec une intervalle de quelques secondes. Quelques secondes. Et le résultat c'est qu'il fut totalement guéri. Et donc je pense qu'il rentre dans la même lignée de tous les autres miracles que Jésus a fait, instantané, total, immédiat, visible, public. Bref, voici la guérison. Cet homme est guéri. 2. L'expédition. Verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples. Alors, je crois qu'il y avait un plan pour montrer où on est. Le prochain, peut-être, PowerPoint. Tac. Donc, alors, Jésus était à gauche. Et là, il vient de traverser le lac. Et il arrive maintenant. Alors, j'aurais dû dire, c'est le verset 22. Ils se rendirent à Bethsaida. Donc, c'est le premier point rouge. D'accord ? Maintenant, on passe au deuxième point, l'expédition. Et maintenant, le prochain plan. Voilà. Donc là, on va voir qu'il monte maintenant à Césarée de Philippe, qui est au nord de la mer de Galilée. Donc, tu peux reculer au point 2. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et il leur posa en chemin cette question, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Donc, il monte. Et le mobile de ce voyage, le monter là-haut, vous avez vu, c'était simplement pour enfin pouvoir retrouver du repos, lui avec ses disciples. Ils avaient essayé, ils avaient fait plusieurs tentatives, mais ils n'ont pas réussi. Donc ça, c'est l'expédition. 3. La question. La question, verset 27. Jésus leur posa en chemin cette question, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Donc ils sont en chemin, ils sont en train de monter à Césarée de Philippe. Et Jésus demande la question à ses disciples sur ce que disaient les gens à son sujet. En fait, il veut vraiment savoir ce que non seulement les gens autour, la population, mais aussi les disciples pensaient de lui, s'ils avaient appris quelque chose par rapport aux miracles qu'il faisait, les guérisons qu'il faisait, pour voir s'ils ont vraiment compris qui était Jésus. 4. Ça va vite aujourd'hui. 4. Les opinions. Verset 28, ils répondirent, « Ah, ben, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. » Donc alors les disciples répondent à Jésus, « Ah, tu veux savoir ce que les gens disent de toi ? Ok, ben on va te dire, on a entendu que certains pensent que tu es Jean-Baptiste. » Ils pensent qu'il était Jean-Baptiste, probablement pour la même raison que Hérode le Tétrarque, qui dans Matthieu 14, 1 à 2, pensait que Jésus était Jean-Baptiste ressuscité. D'autres pensaient qu'il était Élie. Élie ressuscité. Pourquoi ? Eh bien, les deux derniers versets de la Bible dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous le saviez ça, les deux derniers versets dans Malachie disent ceci, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramène le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Donc ils se sont dit, « Ah ben voilà, avant l'arrivée du jour du Seigneur, du Messie, Élie doit arriver. » Donc ils se sont dit, « Ben alors c'est Élie. » Dans Matthieu 16, 14, d'autres disent encore qu'ils pensaient qu'il était Jérémie. Pourquoi Jérémie ? Parce qu'il y avait à l'époque un livre apocryphe, Maccabée, qui circulait, c'était un livre non biblique, et dans 2 Maccabées 2, 4 à 8, il est affirmé que Jérémie reviendrait sur la terre avant la venue du Messie. Donc certains se disaient, ah, bah alors c'est Jérémie. Alors, ce qui est intéressant et à retenir ici, c'est que dans chaque instance, le peuple considérait Jésus une forme de précurseur du Messie, mais pas le Messie. La population disait, ah oui, ça doit être celui qui vient avant le Messie. Donc ils ont reconnu en Jésus quelque chose d'unique, quelque chose venu de Dieu certainement, oui un prophète, mais le Messie, il ne pouvait pas aller jusqu'à là, pas le Messie. Vous savez, rien n'a changé. Rien n'a changé aujourd'hui. Vous demandez aux gens, à droite et à gauche, à Genève, vos voisins, vos amis, à l'école, au travail. C'est qui Jésus, vous croyez? C'était un prophète, ou c'était un homme bien, un homme qui a donné des bons enseignements, c'est un homme moral. Tu leur demandes, mais est-ce que tu penses que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu incarné, le Messie? Il ne faut pas pousser. Il ne faut pas pousser. C'est vrai. Tentez le coup. 5. La précision. Le verset 29. Et vous, Jésus leur demande, aux disciples, qui dites-vous que je suis? Alors Jésus veut savoir si les disciples ont la même perspective que la foule. Et vous alors? La foule dit que je ne suis pas le Messie. Et vous, vous dites quoi? Six, ça va vite aujourd'hui. La confession. La confession, verset 29. Pierre lui répondit, tu es le Christ. Et Matthieu 16:16 ajoute, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, on sait que Pierre, c'est le porte-parole des douze, c'est le leader. C'est lui qui répond. Et il dit, tu es le Christ. C'est le mot grec pour Messie qui veut dire loin de Dieu. Celui qui viendrait délivrer Israël et le monde de ses péchés. Là, c'est intéressant, tandis que le peuple qui avait vu tous ces miracles déclarait Jésus le précurseur du Messie, Pierre lui dit clairement, tu es le Messie. Il ne faut pas penser que c'est la première fois que les disciples avaient conclu ça. André l'avait déjà compris dans Jean 1, 41 et 49. Et Jean-Baptiste aussi l'avait déjà compris dans Jean 1, 34. Donc ce n'était pas nouveau. C'était simplement redéclaré. De ce fait, Pierre confesse que cet homme, Jésus qui est devant lui, qui avait fait ses centaines, voire ses milliers de guérisons et de miracles, avec qui Pierre avait marché sur l'eau avec lui, n'oublions pas. Pour lui c'est simple, tu es le Messie, fils de Dieu, fils du Dieu vivant, de la même nature, Dieu incarné dans la personne du Fils. Et verset 30, Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Pourquoi? Parce que d'annoncer publiquement comme quoi Jésus était le Messie, surtout à une foule incrédule, susciterait peut-être de faux espoirs parmi le peuple qui attendait que Jésus ne soit pas un Messie spirituel, mais un Messie terrestre qui pourrait accomplir leur espoir politique. Et il ne veut pas rentrer dans ce jeu-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce petit verset assez étonnant dans Ésaïe 9, à partir du verset 5. Écoutez, donc Ésaïe a écrit Ésaïe 700-800 ans avant Jésus-Christ, et il parlait du Messie à venir. Écoutez ces versets, on le lit à Noël, mais j'aimerais le lire aujourd'hui dans ce contexte. Qui est Christ? Voici ce que l'Ancien Testament dit, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Donc, cet enfant, ce fils, on l'appellera. Admirable, conseiller, maintenant tenez-vous bien, Dieu puissant. Cet enfant, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Donc un trône éternel. Pierre avait compris. 7. La prédiction. La prédiction. Verset 31. Alors Jésus commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Alors les hostilités avec les chefs religieux s'amplifiaient. Golgotha approchait à toute allure. Jésus veut préparer ses disciples pour l'inévitable. Et au verset 31, Jésus leur annonce 4. Ben disons, il fait 4 annonces le concernant. 4 prédictions. Premièrement, il fallait qu'il aille à Jérusalem. C'est ce qu'il dit. Il faut que j'aille à Jérusalem. Il devait y aller pour mourir. Pourquoi Jérusalem? Parce que Jérusalem était le centre du système sacrificatoire juif. Et Jésus, Jean 1, 29, qui était l'agneau parfait de Dieu, qui devait donner sa vie pour le péché du monde, devait mourir là, le jour de la Pâque juive, afin de satisfaire aux exigences de la loi concernant le péché, qui voulait dire qu'il allait payer la dette du péché en offrant sa vie parfaite comme rançon pour tous. Donc il devait aller à Jérusalem. 2. Sous-point. Il fallait qu'il souffre. C'est ce qu'il dit. Et ça, c'était une chose très difficile, mes amis, pour les disciples de comprendre. Jésus vient de féliciter Pierre, dans Matthieu, on le voit surtout, pour avoir conclu qu'il était le Messie. Et maintenant, quelques instants plus tard, Jésus lui dit, écoute, je suis le Messie, mais je vais devoir souffrir et mourir. Là, je ne comprends pas. Ça ne rentrait pas dans la perspective, bien que c'était clair dans l'Écriture, Ésaïe 53, c'était pas dans la conception qu'ils avaient eux-mêmes de ce qu'ils voulaient être le Messie. Et il est encore plus clair ici. Il dit qu'il doit être rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort. Donc il fallait qu'il souffre. Troisièmement, il fallait qu'il meure. Qu'il meure. Bien oui, que dire? De nouveau, l'Ancien Testament l'avait prédit. Vous savez, des fois, on lit ce qu'on a envie de lire. Dans Ésaïe 53, versets 9 et 10, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence, qu'il n'a point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'Ancien Testament avait clairement évoqué que le Messie viendrait innocent, mais qu'il mourrait et qu'il prendrait sur lui le péché des hommes. Ésaïe 53 et le verset 6 le dit comme ceci: « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité ou le péché de nous tous. » L'Ancien Testament ne pouvait pas être plus clair. Dieu a envoyé son Fils innocent, lui qui ne méritait donc pas mourir, et nous qui méritions la mort parce que nous sommes péchés, il a pris notre péché sur lui et il est mort à notre place. Voilà l'Évangile. Voilà ce que Jésus annonce. Il fallait, pour que nous puissions être libérés de notre péché, qu'un homme innocent, Jésus-Christ, lui meure à ma place. C'était la seule solution. La seule solution. C'est pour ça, moi je dis, je parlais avec un gars qui est venu frapper à la porte, il nous vendait des trucs l'autre jour. Puis on a commencé à parler, imaginer, de Dieu, d'accord? Et il me parlait de sa religion. En l'occurrence, il était musulman, très sympa, on a bien parlé. Et je lui dis, mais c'est impossible par tes bonnes œuvres que tu ailles au ciel. C'est pas possible, je lui disais. Alors il a commencé à rire, parce que je crois que personne ne lui avait jamais dit ça comme ça. Je souriais, je lui dis, mais écoute, tu veux prier 5 fois? Il a dit, je lui dis, est-ce que tu pries fidèlement 5 fois? Il a dit, à peu près. Je lui dis, mais est-ce que tu penses que si tu pries pas fidèlement 5 fois, si tu fais pas ce que tu dois faire, tu iras au ciel? Écoute, je crois que peut-être que oui, mais tu pries pas fidèlement. Non. Alors pourquoi tu irais au ciel? Ouais, parce que... Il n'arrivait pas à répondre. J'ai dit, mais non, tu n'y arriveras pas, c'est impossible. Parce que Dieu est saint, et la seule manière que tu peux rentrer par tes propres efforts, c'est de vivre une vie parfaitement sainte. Est-ce que tu y arrives? Non, c'est pas possible, mais bon, on fait donc mieux. J'ai dit, c'est pas possible. Finalement, il a accepté, il a dit, c'est vrai. J'ai dit, donc, quelle est la solution pour ton péché? Elle vient pas de toi, elle vient pas de ta religion. Non, elle doit venir de l'extérieur de toi, de quelqu'un qui va prendre sur lui ton péché. Et là, il a commencé à rire. Il riait. Mais c'était un bon rire, c'était sympa. Il a dit, c'est super de discuter avec vous. Alors moi, j'ai dit, c'est super de discuter avec toi aussi, tu vois. Mais c'est tellement logique, le christianisme. C'est ce que Jésus dit. Il faut que je meure. Et regardez, trop bien la suite. Verset 31, il fallait qu'il ressuscite aussi. Il faut qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Ça, c'est la bonne nouvelle. Écoute, oui, je vais mourir, mais si je ressuscite vraiment des morts, ça veut dire que je vainc la mort, qui veut dire que je vais vaincre le péché. Donc, je peux vraiment pardonner ton péché. Ce n'est pas juste une belle histoire, c'est la réalité. Et ce qui est génial, c'est quand Pierre 1, 18 et 21 dit « Ce n'est pas par ces choses périssables, ni par l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. » Vous savez, ce qu'on apprend, c'est que la Bible avait prévu cela, Dieu avait prévu cela depuis avant même la fondation du monde. Avant que le monde existe, Dieu avait déjà pourvu un moyen de racheter les hommes de leur péché par son propre fils qu'il allait envoyer pour mourir à notre place. Tout était déjà inscrit. C'est génial, non? Pauvre Pierre. 8. La désapprobation. Verset 32. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à leur reprendre. Pierre, il est marrant, hein? Humainement, on le comprend. Jésus, comment pouvait-il être à la fois Messie et mourir aux mains des leaders religieux? C'était incompréhensible pour lui. Il ne pouvait pas vraiment comprendre, bien que Jésus le disait, comment le Messie pouvait mourir. Comment est-ce qu'il pouvait être couronné roi, mort? Alors, c'est marrant, il le prend à part, il dit, écoute Jésus, il faut que je parle avec toi 2 secondes. Il le prend à part. Et lui dit ceci, c'est à peu près ça, enfin c'est pas à peu près ça, c'est ça. Jésus, excuse-moi, mais arrête. Arrête ce que tu es en train de dire. Tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est Pierre qui dit ça à Jésus. Il le reprend. Matthieu 16 nous donne le détail. Alors maintenant c'est Jésus qui réagit. 9, la condamnation, verset 33. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Vous êtes Pierre, vous réagissez comment? Ce sont les paroles ici qu'on est en train de lire maintenant, les paroles les plus dures que Jésus a jamais dit à un disciple, jamais. Et en plus, c'était le leader des disciples. C'est intéressant, ces paroles sont presque exactement les mêmes que Jésus a prononcées contre Satan lors de sa tentation 2 années plus tôt dans Matthieu 4, 10, où il dit « Retire-toi, Satan !» Vous vous rappelez? Alors, il est dit que le diable laissa jusqu'à un moment favorable. Donc, Satan a quitté Jésus, mais il est revenu. Alors, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi est-ce que Satan voulait attaquer Jésus ici? On reviendra à Pierre dans 2 secondes. Voyez-vous, Satan, qui existe au fait, hein, si vous n'êtes pas convaincu, là, sa preuve, ça existe. Il existe pas ça. Il existe, c'est un ange déchu. Il cherchait un moment favorable pour tenter Jésus. Pourquoi ? Pour le détourner d'accomplir le plan divin, le plan de la croix. Un commentateur a dit ceci. Satan savait que le chemin de la croix serait sa propre défaite et c'est pour cela qu'il a tout essayé pour arrêter Jésus. Satan savait que la croix était le moyen de la délivrance des hommes, de sa domination du péché et de la mort. Il savait que la croix était le moyen pour les hommes d'aller du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est pour ça que Jacques 2,19 dit que les démons tremblent et Satan avec eux tremblent. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent leur sort. Ils savent très bien, Matthieu 25,41, que l'enfer a été créé pour eux. Et ils savent très bien que le jour du jugement est inévitable. Mais ils se sont dit, si on peut éviter la croix, peut-être qu'on sera sauvé. Pas sauvé comme nous, mais disons, pas condamné à l'enfer. Donc, ce qui serait sauvé comme nous. Donc, ils savaient pertinemment que leur sort était lié à la croix et que la résurrection scellerait une fois pour toutes leur sort éternel. Pourquoi est-ce que vous croyez que Satan a inspiré Hérode de tuer tous les bébés pour essayer de se débarrasser de Jésus ? C'est Satan qui était derrière tout ça. Pourquoi est-ce que Satan a personnellement essayé de faire pécher Jésus dans la tentation de l'île désert ? Pas pour le discréditer. Pourquoi les habitants de Nazareth ont essayé de jeter Jésus de cette falaise pour le tuer ? Pour qu'il meure avant la croix. Mais il devait mourir à Jérusalem. Et ici, Satan, alors c'est ça qui fait un petit peu peur dans cette histoire. Satan se sert du porte-parole des 12 disciples, Pierre lui-même, pour essayer de tenter Jésus. Alors Pierre est bien intentionné dans sa remarque. Mais non, Jésus, tu vas pas mourir, t'as rien compris. Mais il a tort. Alors regardez verset 33. Mais Jésus, se retournant, regardait ses disciples, réprimant la pierre, et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Alors c'est intéressant, Jésus regarde ses disciples, parle à Pierre, mais s'adresse à Satan. Quand même étrange. En fait, Jésus s'adresse directement à Satan, qui cherchait à utiliser Pierre comme son instrument. C'est comme s'il y avait Pierre qui parlait, mais Jésus voyait Satan derrière en train de lui chuchoter dans l'oreille. « Allez Pierre, allez Pierre, fais que Jésus n'y aille pas. » Et alors, qu'est-ce qui se passe ? « Arrière de moi, Satan. » Et ce qui est tellement grave ici, c'est la fin du verset 33, « Car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Ça, c'est la clé, mes amis. Et ça, je dirais que c'est même le défi de notre vie quotidienne. Tous les jours. Tous les jours. Ésaïe 55, 8 dit ceci, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » Chaque jour, chrétien, je parle à un chrétien aujourd'hui, tu dois te poser la question, est-ce que je vais faire ce que Dieu veut ou est-ce que je vais faire ce que je veux ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Absolument. Absolument, la pensée du monde nous dit, mais vous êtes malades les gars, vous êtes fous. En Corinthiens 23 nous dit « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. » Mes amis, la voix de Christ est une folie. Le monde nous prend pour des fous. Et des fois c'est dur. Et ça va être très dur, on va le voir dans deux secondes. Et ensuite on peut commencer à douter, se dire « Mais attends, est-ce que c'est vraiment logique ce truc du christianisme ?» Et on peut commencer à écouter les voies du monde et changer la vérité. Jésus rappelle Pierre à l'ordre. Ça, c'est vraiment la leçon je dirais, une leçon très pratique pour nous. Qui est-ce que nous écoutons? Et ceci mène au prochain verset. Alors maintenant, ça devient vraiment intense ici, parce que Pierre vient de confesser Christ, Jésus comme Christ. Peut-être tu l'as déjà fait. Et là, maintenant, il doit décider de suivre les pensées de Dieu, pas les pensées des hommes. Verset 33. Alors, si tu fais ça, mon ami, voici le défi. Si tu proclames que Jésus est vraiment le Messie, et si tu veux vraiment t'habiller des pensées de Dieu et pas du monde ni de Satan, si vraiment tu veux faire ça, attention, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va vraiment chauffer. Tu vas souffrir. Et voilà le but des versets qui viennent. 10. La consécration, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, Jésus donc, il leur dit, alors notez bien qu'il parle à la foule et à ses disciples. Donc moi je pense que nous on fait partie de la foule, je pense qu'on est aussi ses disciples, je pense qu'il nous parle vraiment à nous ici. D'accord ? Ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc il parle à ses disciples, qui sont déjà convaincus de sa divinité, du fait qu'il est Messie, mais aussi à la foule, qui n'y est pas encore. Et il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi. Donc il parle aux gens qui sont en train de réfléchir et se poser la question, est-ce que je veux vraiment, vraiment suivre Jésus-Christ avec ma vie? Alors moi ce que j'aime, hein, ça c'est vraiment beau, c'est qu'il ne l'impose pas. C'est un choix. Il nous appelle. Il nous dit, viens, viens, viens. Mais il ne nous force pas. Jamais. Et souvent, j'utilise l'exemple de l'auberge qui était pleine. Jésus allait être né, vous vous rappelez ? Marie était enceinte, il allait naître. Il n'y avait plus de place dans l'auberge, donc il naît dans une crèche. Mais tu allez voir. Il était déjà Dieu incarné, il aurait pu organiser, forcer une place dans l'auberge, mais il ne l'a pas fait. Il ne se force jamais. Donc c'est pour ça que, alors, de parler avec les gens, essayer de discuter avec eux, les persuader, c'est très bien, mais de les forcer comme ça, ça ne sert à rien. Donc, si on veut venir après lui, ayant appelé la foule et ses disciples, alors Jésus leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, voici ce qu'il faut faire. Alors ça c'est très bien pour apprendre à recruter quelqu'un, d'accord? C'est génial. 1. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Numéro 1, il faut renoncer à toi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, premièrement qu'il renonce à lui-même. C'est la première exigence pour être un disciple de Jésus-Christ, c'est qu'il renonce à lui-même. Ce mot veut dire se désavouer soi-même, se couper totalement d'une autre personne. Donc celui qui veut suivre Christ doit refuser toute relation avec lui-même. Alors là vous dites, c'est vraiment clair. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, le soi-même est ici une référence à notre ancienne nature, la partie naturelle de notre être, la partie de nous qui est pécheresse, déchue, anti-Dieu. Paul, dans Romains 7, 18, décrit cette partie de nous comme étant la chair dans laquelle il dit « n'habite rien de bon ». Éphésiens 4, 22 décrit cette vieille nature comme le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. La nouvelle naissance, lorsqu'on est né de nouveau, lorsque Christ vient et transforme notre être intérieur, ceci implique un rejet radical avec le passé. Quand on se repent, on dit « Ah, mon péché, je le haïs, maintenant je veux que Christ me pardonne et me transforme ». C'est ce rejet-là. Les attitudes, les comportements, les paroles d'une vieille nature déchue. C'est de vouloir y renoncer, de dire non, de couper ces choses, de dire stop, c'est fini, terminé, j'en veux plus. Je me dis non. C'est intéressant, hein? C'est la haine de son propre péché, en fait. Deux. Premier truc qu'il faut faire, c'est de renoncer à soi-même. Deux. Il le dit. Qu'il se charge de sa croix. Il faut porter sa croix. C'est la deuxième condition pour pouvoir être disciple de Jésus-Christ. Alors, ça veut dire quoi, porter sa croix? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, porter sa croix ne veut pas dire supporter votre belle-mère dominatrice, par exemple. Ne veut pas dire non plus devoir supporter votre mari paresseux. Ni devoir payer vos impôts. Bon, ça fait un peu rire, mais c'est pas faux, c'est pas ça. C'est peut-être pas marrant, mais c'est pas ça. Porter sa croix ne veut pas non plus dire devoir supporter un handicap, ni de devoir supporter une maladie incurable, bien que cela est une chose tragique et difficile, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Non, vous voyez, pour le juif à l'époque, porter sa croix était une image forte et claire, claire. Écoutez, la croix est un instrument de mort terrible et de torture. Les Romains avaient inventé la crucifixion pour que la mort soit horrible. Qu'ils réservaient pour leurs pires ennemis. Quelques années avant la naissance de Jésus, Alexandre Janéus avait crucifié 800 rebelles juifs à Jérusalem. Après la révolte qui a eu lieu après la mort d'Hérode, 2000 juifs ont été crucifiés par le proconsul Varus. Il est estimé que pendant la vie de Christ, les Romains ont crucifié plus de 30 000 personnes. Voyez-vous, lorsque Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix », les Juifs savaient exactement de quoi il parlait. C'était la mort et rien d'autre. Une fois que tu étais crucifié, tu ne redescendais plus jamais de ta croix. C'était l'image qu'ils avaient tous vue maintes fois d'un condamné qui portait sa croix au lieu de la crucifixion pour que tout le monde puisse le voir, comme avertissement à la population que cela serait le sort de quiconque se révolterait contre Rome. Jésus dit tout simplement ici, si tu veux être disciple de Jésus, alors tu dois être d'accord de prendre ta croix et de mourir s'il le faut. Rien de moins. Mais tu dis, mais pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque la droiture et la vertu de Dieu, hein, on renonce à soi-même, on renonce au péché, Christ nous transforme, ben cette vertu qui maintenant se manifeste en nous et au travers de son peuple, qui porte le nom de Jésus-Christ et qui parle de la cause de cette vertu en nous, eh bien cette vertu va se heurter contre le monde qui lui est mené par Satan et le péché. Et il y aura forcément opposition, antagonisme et persécution. Proverbe 29, 10 le dit tout simplement comme ceci. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. Confrontation. Confrontation. Entre la mauvaise voie et la bonne voie. 1 Jean 3, 12 le dit comme ceci, qu'il ne faut pas ressembler à Caïn, qui était du malin, qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Confrontation. Peut-être c'est Jésus qui le dit le plus clairement dans Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Mes amis, l'enjeu est énorme ici. Énorme. Le chrétien doit réaliser qu'en venant à Christ, il change de royaume. Il rentre dans le royaume de Dieu. Jean 1, 12, il devient fils de Dieu. Il devient ennemi numéro un de Satan et des démons. Et du monde dans lequel il vit. Ce petit verset est assez intéressant, vous le connaissez certainement. 1 Pierre 4, 3. Écoutez, c'est la réflexion de ce qui se passe lorsqu'on devient chrétien et les autres nous regardent changer. Écoutez bien, c'est très intéressant. 1 Pierre 4, à partir du verset 3. C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens. Donc il dit, avant je marchais comme ceci. Comme les païens, marchant dans le dérèglement, dans les convoitises, dans l'ivrognerie, dans les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouvent-ils étrange, donc ces mêmes païens avec qui vous faisiez la fête, maintenant ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Ben ouais, tout d'un coup ta vie change. Tu aimes le Seigneur, tu viens au culte, ta vie est transformée, tu arrêtes ton péché, et tes amis te regardent et disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu leur dis, Jésus a changé ma vie. Mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es devenu un fanatique religieux, t'es tombé dans une secte, et paf, la persécution commence. Pourquoi? Simplement parce que ta vie a changé, et tu n'as plus envie de pécher comme avant, et maintenant on te critique. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est absolument vrai. Et ça va de mal en pire. Parce que si tu tiens le coup, hein, et ça on le voit dans la parabole de la semence, Jésus dit, Jean 15, 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Les gens commenceront à nous haïr. Et dans 2 Timothée, si je trouve, 3.12, 2 Timothée 3.12. Et or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mes amis, il n'y a pas 30 solutions. Si tu veux suivre Jésus-Christ fidèlement, ça va coûter. Ça va coûter. Ça pourrait même coûter ta vie. Alors aujourd'hui, on se dit, ouais, bon, à Genève, c'est pas probable. Non, c'est pas probable. Mais c'est possible, un jour. Calvin était à Genève. Des milliers de huguenots en France voisine se faisaient massacrer pour leur foi. C'est arrivé ici, mes amis. Pourquoi ça n'arriverait pas de nouveau? C'est ici que c'est arrivé. Et pour tenir le coup, il faut que le verset 33 soit vrai de nous. Il a dit, tu ne conçois pas les choses de Dieu, mais tu n'as que des pensées humaines. Si c'est les pensées humaines qui te dirigent, faut oublier. C'est trop difficile. Donc il dit, la consécration, il faut renoncer à soi-même, il faut porter sa croix. Regardez, troisièmement, il faut prendre une décision. Il dit, verset 34, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a un moment donné, on considère, on analyse, on examine. À un moment donné, on dit, Seigneur, maintenant, je veux croire en toi, je veux être sauvé, je veux que tu me pardonnes. Je suis prêt à renoncer à moi-même, à prendre ma croix et à te suivre. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Et on se lance. On se lance dans les bras du Sauveur. Et là, ça commence à chauffer. Mais la bénédiction surpasse l'échauffement, si je peux le dire ainsi. Alors 11, maintenant regardez, les choses sont tellement claires. 11, la considération, verset 35, très vite. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Si tu cherches à sauver ta vie, de vouloir à tout prix garder ce que le monde peut t'offrir et éviter la souffrance liée à suivre Christ, alors alors tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé. Alors tu perdras ton opportunité pour être sauvé et recevoir la vie éternelle. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Mais si tu es prêt à perdre ta vie, à perdre ce que le monde t'offre, et à accepter de mourir s'il le faut, à cause de Jésus et l'Évangile, alors tu seras sauvé et tu trouveras la vie éternelle. Et le verset 36 montre l'énormité de l'enjeu. Écoutez, regardez mes amis. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? L'enjeu est énorme ici, énorme. L'enjeu, c'est l'âme. C'est la partie immatérielle mais réelle de notre homme intérieur. Jésus affirme que nous avons tous une âme et qu'elle a un destin. Cette âme a un destin, ou bien c'est la vie éternelle, ou ce sont les châtiments éternels. Point à la ligne. Tu peux gagner tout le monde et perdre ton âme. C'est un choix avec une destinée éternelle qu'on fait ici sur terre, par rapport à Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous pose continuellement la question, qui pensez-vous être Jésus-Christ ? Qui est Jésus-Christ ? Parce que si tu penses que Jésus-Christ est quelqu'un de moins que le Messie, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des gens qui ont réussi à acheter le monde entier. Ils ont perdu leur âme. Moi, je dirais que la plupart du monde fait ça. Ils essaient de gagner le monde. Alors, ça veut dire que c'est un mal d'être riche, hein. Il faut quand même nuancer ça. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de gens très riches dans la Bible. Même dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 6, 17 recommande aux riches, au présent siècle, de ne pas être orgueilleux. Donc il dit, ben voilà, il y a des riches chrétiens dans l'Église. Orgueilleux, pas, il ne faut pas être orgueilleux. De ne pas mettre leur espérance dans leur richesse incertaine. Mais de mettre leur espérance en Dieu qui nous donne tout avec abondance et toutes choses pour que nous en jouissions. Non, le chrétien peut devenir riche. Et on a vu dans l'histoire que beaucoup de chrétiens qui deviennent honnêtes, des travailleurs à la gloire de Dieu, eh bien ont réussi à gagner un grand patrimoine. Il y a beaucoup de protestants évangéliques qui gagnent bien leur vie à cause de leur éthique du travail. Mais leur espérance n'est pas dans leur argent. Leur espérance est dans Dieu. Et il le montre par, verset 18, « Recommande-leur de faire du bien, être riche en bonnes œuvres et d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé dans un fondement solide. » Voilà, l'homme riche est généreux et il investit dans le royaume de Dieu. Mais il profite de sa richesse aussi, c'est pas un mal. Non, la question c'est l'âme, l'âme. Steve Niles, il est déjà prêché ici, mais je raconte une histoire, il était paysan, enfin son père était paysan dans le nord de New York, et un jour un homme très riche dans la ville est mort, et ils sont tous allés à l'enterrement. Il a été très très riche, et le papa de Steve ne disait pas grand chose, il était très court en parole. Et tous les gens du village étaient là. Et pendant l'enterrement, Steve a entendu un homme de la ville dire à son père, « Hé, tu crois qu'il a laissé combien ?» Le papa de Steve a répondu, « Tout. » Ça fait réfléchir, vous n'êtes pas d'accord ? Tout. La conclusion, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. À la fin des temps, lorsque Jésus viendra dans sa gloire avec ses saints anges pour le jugement dernier, l'authenticité de la conversion de chaque homme sera dévoilée comme à l'œil nu. Si nous avons eu honte de Jésus ici-bas, si nous n'avons pas été d'accord de payer le prix, de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix et de le suivre, alors lui aura honte de nous devant le Père. C'est ce qu'il dit. Pourquoi ? Mais parce que lui aura payé le prix fort pour nous, lui aura donné sa vie pour nous, mais moi, je n'aurais pas été d'accord de donner ma vie pour lui, si cela m'avait été demandé. Il dit, mais attendez voir, j'ai donné ma vie pour toi. Pour ton âme. T'es pas prêt à la donner pour moi ? Une logique. Mais ceux qui auront renoncé à eux-mêmes, porté leur croix, qui auront suivi Christ, alors ceux-ci seront honorés par le Père et profiteront des félicités éternelles. Je me rappelle quand j'étais pasteur à La Servette, il y avait un monsieur Jaco, peut-être certains de vous connaissez. Des fois, il venait me voir après un culte, il me disait, ouais, monsieur Glass, ça c'était du béton armé. Ça, mes amis, c'est du béton armé aujourd'hui. C'est du béton armé. Vous savez, on vit dans une époque où l'évangile est facile. Hein. Les gens disent, ouais, écoute, viens, Dieu t'aime. Et viens, il va t'offrir le pardon, il va t'offrir une bonne vie, il va te guérir, il va t'offrir... Que les bonnes choses. On l'entend souvent, ça. Jésus dit, écoute, viens. Viens. Renonce à toi-même. Prends ta croix. Sois prêt à souffrir et à mourir. Suis-moi pour une vie de galère, mais de bénédiction. Quelque part, c'est ce qu'il est en train de dire. Ah, pour recruter, c'est le top. Et on comprend pourquoi maintenant dans Jean 6, 66, il est dit ceci. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Alors, disciple ne veut pas toujours dire sauvé. Disciple, c'est quelqu'un qui suivait Jésus. Certains se sont dit, là c'est trop, moi j'ose pas. Ils sont partis. Alors, on est devant un choix aujourd'hui, mes amis. Et toi? Et moi?